L'onction ce matin nous suffit à passer un moment mémorable dans ta présence. Alors ce que je réclame en cet instant, c'est une touche de ton onction pour que ce message passe de notre tête jusqu'à notre cœur, que nos oreilles entendent et que nos caractères changent, que le Saint-Esprit apporte des modifications pour la sanctification de ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va ouvrir ensemble notre Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Évangile de Jean au chapitre 13. Peut-être pour ceux qui sont loin, vous ne savez pas, vous ne voyez pas, peut-être que la vidéo va vous aider un petit peu, mais on peut être très bien habillé. Ma femme a acheté un petit complément, vous voyez. D'habitude, soit j'ai pas de cravate, elle me dit, puisque tu n'as pas de cravate, je vais te prendre un... Voilà ça, paraît-il, ça fait comme mentaliste Patrick Jane, pour ceux qui se regardent. M'a dit que c'était bien, donc j'ai mis, moi je suis obéi, vous voyez, je suis soumis à ma femme. Et quand le pasteur Christophe m'a vu arriver... C'est pas tant ça qu'il a regardé, il a regardé plus bas. Et s'il dit, le pasteur Yvan est vraiment dérangé quand même, hein. Il a des problèmes psychologiques, il a très mal dormi. Mais on va ouvrir la Bible. On va ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 13. C'est un texte extraordinaire. Et si vous le voulez bien, on va prendre juste le verset premier. Bon, on peut commencer, ouais, à partir du verset premier. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'est au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu d'auprès de Dieu, qu'il allait se retourner auprès de lui. Il se leva de table, écoutez ça, pendant le dîner. Posa son vêtement, prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon Pierre, celui-ci protesta, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. En effet, Jésus connaissait celui qui allait le trahir. C'est pourquoi il avait ajouté, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement, se rassit à table et leur dit, avez-vous compris ce que je viens de faire ? Avez-vous compris ce que je viens de faire ? C'est impressionnant de savoir en cet instant que Dieu est en train de donner une leçon des plus importantes à son peuple, parce que c'est juste avant de mourir. Et il y a quelque chose de très fort lorsque vous êtes sur votre lit de mort ou vous êtes tout proche de partir, vous voulez donner le meilleur. Et il est dit qu'il donna aux siens une dernière leçon. On prend le verset 10, juste le verset 10. Parce que c'est le verset que je n'ai pas compris pendant des années. Vous connaissez le texte, je ne vais pas prêcher sur le fait de simplement se laver les pieds ou équivalent, juste le verset 10, parce que je ne comprends pas la deuxième partie. On lit ensemble. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Première partie. Il lui suffit de se laver les pieds. C'est étonnant ça. C'est-à-dire, pourquoi si je suis entièrement pur, je dois me laver les pieds? Et pendant des années, je n'ai pas eu d'explication à ce texte, jusqu'à ce vendredi, il y a 10 jours, j'étais dans la salle en train de prier, Et le Saint-Esprit est en prière en moi. Et je ne comprenais pas pourquoi j'arrêtais pas de murmurer à ma place. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi. Et je m'arrêtais, je me dis, mais Yvan, t'es déjà sauvé. Je vais dire à Dieu, purifie-moi, mais il t'a purifié ton cœur. Et en même temps, le Saint-Esprit me poussait à dire, Seigneur, purifie-moi, nettoie-moi. Alors, je vais vous donner le secret aujourd'hui. Parce que je confondais la première partie, entièrement pure, et la deuxième partie, laver les pieds. Je vais vous amener là. Alors, le premier point, vous le comprenez bien, êtes-vous entièrement pur ? Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Pur, c'est kataros en grec, c'est-à-dire purifié de toute souillure, purifié par le feu. À chaque fois que le mot est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est pour dire être libéré du péché. C'est pour être nettoyé, qu'il y ait un changement profond. Ça, c'est le mot pur, kataros. Et vous savez aussi que dans Matthieu 5, il est dit « Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu ». Donc en fait, aucun d'entre nous ne verra Dieu un jour si son cœur n'est pas pur. Alors je dis, c'est très important de savoir ce que c'est que le cœur. En grec, c'est cardia, l'organe du cœur, c'est l'organe physique qui est le centre de la circulation du sang. Je vous dis toutes les occurrences dans la Bible, tous les sens que ça a dans la Bible. Le sens de toute vie physique et spirituelle. Le mot cardia peut être traduit par âme ou esprit, le siège de tous les désirs, des envies, des buts, des efforts. C'est le siège de l'intelligence, de la volonté et du caractère. Voilà ce qu'il est dit, que ton cœur soit pur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, le moteur de toutes tes émotions, de toutes tes affections, le moteur de tes décisions, ça c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est pur ? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et l'Éternel dit, moi l'Éternel, je sonde les cœurs, je scrute les tréfonds de l'être, pour donner à chacun ce qu'on lui aurait valu sa conduite et les effets de ses agissements. Et dans Apocalypse 2, il est dit à propos d'une église qui justement était dans le péché, il dit « Je livre ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs, les pensées et les désirs secrets, et je donnerai à chacun ce que lui auront valu ses actes. » Au repas, il y a 12 apôtres en face. Les 12 ont peur. Les 12 ont peur. D'ailleurs, un autre évangile nous dit que quand Jésus va dire « L'un de vous va me trahir », ils se regardèrent l'un l'autre et disent « Est-ce moi, Seigneur ?» C'est-à-dire qu'ils avaient tous une sensibilité, une conscience, et ils avaient peur, en fait. Ils avaient tous pris le baptême, vous êtes d'accord avec moi ? Il est dit que Jésus et ses disciples avaient tous accepté le baptême de Jean. Donc, ils avaient tous été entièrement baignés. Suivez. On est dans la première partie, entièrement pur, baigné. Ils avaient tous été baignés, mais il y en avait un qui faisait semblant. Parce que dans son cœur, Dieu avait lu quelque chose que son extérieur ne laissait pas transparaître. Et en fait, cet homme-là était double, c'était Judas Iscariote que vous connaissez. Et c'est pour ça qu'il est dit, « Or, vous êtes pur, trois petits points, mais pas tous !» C'est peut-être le cas aussi ce matin. Vous êtes purs, mais pas tous. Je crois qu'on peut assister à des réunions, on peut être un sympathisant et avoir dans son cœur un moment dévié, mais dévié délibérément de ce que tu avais décidé de mettre Dieu en premier dans ta vie. Alors, je vous donne juste un exemple parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est une histoire absolument vraie. Ça se passait donc dans les Cévennes. Vous savez qu'en l'an 1700, il y avait des dragonnades, des persécutions énormes pour les chrétiens qui lisaient la Bible, qu'on appelait les camisards. C'était un groupe de protestants qui devaient se cacher dans le désert des Cévennes pour échapper aux dragons du roi. C'était les soldats d'élite qui étaient là pour violer les femmes et emmener les hommes aux galères. Et c'est des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont fui à ce moment-là pour d'ailleurs aller après vers les colonies et vers les anglaises ou hollandaises, et ils ont peuplé le monde entier. Mais tous ces protestants-là, beaucoup ont fui, certains se sont battus sur place, et c'était le cas d'un chef protestant appelé Cavalier. Il avait réuni quelques centaines d'hommes pour résister dans la région de Nîmes, dans les Cévennes. Et donc, après la bataille de Gaverne, ils s'en allèrent au château de Rouvières. Et celui qui raconte ce texte, c'est le cousin de Cavalier. Il a écrit son témoignage, appelé Le Théâtre Sacré des Cévennes, publié en 1707. Donc, c'est Maximilien Misson. Et il dit cela, en fait, après la bataille, on allait tous au château. 20 personnes se trouvèrent à table. Et il y avait un certain monsieur N qui faisait profession d'être protestant et en qui le chef avait toute confiance, appelé le chef Cavalier, parce que cet homme-là fréquentait régulièrement, assidûment, les assemblées. Un homme de 45 ans, que ce monsieur N, il se trouvait à la droite de Cavalier, et le Saint-Esprit poussa le chef Cavalier à dire « Aujourd'hui, un Judas m'a embrassé. » Ça, c'est ce que Dieu a mis dans son cœur. Et Cavalier a dit devant tous, « Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a prévu de nous trahir. » Quelques instants plus tard, poussé par l'esprit, le cousin de Cavalier, donc c'est lui-même qui dit ses propres mots, voici, écoutez, les prophéties, ça existait déjà. Hein. C'est pas nouveau. Hein. En 1700, je te dis, mon enfant, on a l'impression que ça commence comme aujourd'hui à Créteil en 2013, je te dis, mon enfant, qu'un de ceux qui est assis à cette table et qui a trempé le pain dans le même plat avec mon serviteur a pour dessein de l'empoisonner. Peu après, une femme qui était dans la pièce auprès du feu tint à peu près ces mêmes paroles. Elle dit « Il y a un Judas qui a embrassé mon serviteur et qui est venu pour l'empoisonner. » Dès que Cavalier eut entendu cet avertissement, il s'abstint de manger toute nourriture et ordonna que les portes du château de Rouvières soient fermées. Le frère Ravanel, c'était un peu le prophète, celui qui exerçait régulièrement les dons de prophétie, soudain saisi de l'esprit, ajouta ses précisions. « Je t'assure, mon enfant, lui dit l'esprit, qu'il y a présentement un traître assis à cette table qui a reçu une somme d'argent pour empoisonner mon serviteur et même toute la troupe s'il était possible. » Immédiatement, Cavalier fit interdire de boire l'eau du puits. Un autre frère, le frère Duplan, qui était dans une autre pièce et qui n'avait rien entendu, arriva et dévoila les intentions du traître et il prononça ces paroles. « Cet homme a vendu mon serviteur pour la somme de 500 écus d'or, mais il sera reconnu et convaincu de son crime. Il a pour dessein de jeter le poison qui est caché sur lui ou de le mettre dans les habits de quelqu'un d'autre de la compagnie. Mais je ne le permettrai pas, dit le Seigneur, je permettrai qu'il soit reconnu et nommé par son nom. » Faut pas rigoler avec Dieu, mes amis. Faut pas rigoler. Et le frère Duplan se dirigea tout droit vers Monsieur N et lui dit, « Ne sais-tu pas, misérable, que je vois toutes choses, dit l'Éternel, que je sonde les cœurs et les reins et les plus secrètes des pensées me sont découvertes. N'as-tu pas peur de mes jugements? Oserais-tu nier le complot que tu as fait avec les ennemis de mon peuple? Confesse ton crime, malheureux. » Monsieur N voulut s'excuser, se défausser, mais Duplan déclara que le poison était dans sa sacoche et dans la manche de son juste au corps. Le poison était en effet dans du papier enroulé. Le Seigneur n'avait pas précisé ce qu'il fallait faire du traître, alors le chef Cavalier le laissa partir libre et retourner chez lui. La suite de l'histoire est assez triste, en fait, puisque lorsqu'il va rentrer chez lui, les chefs envoyés par Louis XIV, donc le maréchal de Montrevel, va lui réclamer les 500 écus d'or qu'il avait eu d'avance. Et pour éviter de les rembourser, il a donné le nom des 60 camisards de la ville de Nîmes qui sont partis aux galères à ce moment-là. Et ce qui est très étonnant, c'est la suite du récit que écrit donc ce témoin oculaire. Et dit, mais quant à Monsieur N, il se retrouva quelque temps plus tard en prison, ne sait pas comment, avec les mêmes camisards qu'il avait dénoncés. Il dit, par contre, il était en proie à une profonde mélancolie et finit par tomber malade. Il eut dans la nuit un songe horrible qu'il raconta au cousin de Cavalier, qu'il avait fait emprisonner lui-même. Il se voyait tout nu, il cherchait à se cacher, il tombait dans un lieu abject, plongé jusqu'à la bouche, il criait, personne ne venait le secourir, il se voyait mort dans ce lieu horrible. Peu de jours après, au plus mal, il fut transporté à l'hôpital avec une grande fièvre. Il parla sans cesse des troubles qu'il endurait jour et nuit. On vint lui apporter une sorte de vin pour le faire vomir. Et il mourut la nuit étouffé dans son vomi. C'est le témoignage oculaire publié en 1707. Quant aux autres camisards, ils furent relâchés généralement après 1704. On rigole pas avec Dieu. On ne peut pas faire semblant et Dieu connaît les pensées du cœur. Ils sont dévoilés. Vous avez une seule façon. Il n'y a qu'un seul moyen pour être purifié, lavé dans votre cœur, vos pensées. Il est dit dans Hébreux 9, Jésus a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, des cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures, leur rendent une pureté extérieure. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, écoutez ça. Par conséquent, son sang purifiera-t-il votre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant? Et au verset 12 du chapitre 10, j'aime beaucoup ce verset qui dit: Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, valable pour toujours. Il siège à la droite de Dieu et il attend désormais que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ce qu'il purifie du péché. Et c'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord: Voici quelle alliance je vais établir avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leur cœur, je les graverai dans leurs pensées, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés ni de leurs fautes. Et lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Et nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec une pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà, nettoyer. Lorsque Dieu juge pas juste ton impression du moment, Dieu juge ta conscience, c'est plus profond. C'est plus profond. C'est pas un matin où tu dis: Tiens, je me sens pas en règle avec Dieu aujourd'hui. Là, on est dans le domaine de l'affectif, du ressenti. C'est pas ça. La conscience, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Dieu sonde qui tu es à l'intérieur. Et quel est le choix, le centre, je vous ai dit tout à l'heure, cardia en grec, le centre de toute ta vie. Si le centre de toute ta vie, c'est Jésus, tu es sauvé. Une fois pour toutes, le sacrifice a été fait, tu es entièrement pur. Normalement, ça devrait vous réjouir. Normalement, il devrait y avoir quelque chose en vous qui dise: Merci pour un si grand salut, acquis une fois pour toutes. Et il a dit: Il n'est pas nécessaire de présenter à nouveau une offrande pour le sacrifice. Alors arrêtez. Moi, je connais un certain Bernard. Ah, Bernard, qu'est-ce que j'ai aimé, Bernard. Bernard venait du Monténégro à l'église de Pernetti. Il était peintre. Qu'est-ce qu'il bossait? C'était quelqu'un qui aimait la finition, vous voyez. Et comme toutes ces personnes très rigoureuses, et Bernard, il n'aimait pas les choses à moitié mal faites. Et quand c'était le pasteur Henri Lindemann qui prêchait, à tous les appels, Bernard venait donner son cœur à Jésus. Mais tous les appels, je n'ai pas vu une seule fois Bernard rester à sa place. Le pasteur Lindemann disait: Y a-t-il quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus, se mettre en règle devant Dieu? À chaque fois, Bernard se précipitait devant, il redonnait son cœur à Jésus. Alors, à la fois, je trouvais ça beau et à la fois, je trouvais ça triste. Parce que Bernard, une fois pour toutes, tu es sauvé. Alors arrête, Bernard, tous les jours, de demander à ce que Dieu te lave entièrement. Tu refais le coup de Simon-Pierre qui dit: Mais Seigneur, non pas les mains, la tête, mais vas-y partout. Et Jésus lui dit: Mais non, t'as pas compris, Pierre. Tu es déjà pur. Il suffit de te laver les pieds. Vous savez, avant de passer à cette partie, la deuxième et la dernière, je voudrais juste vous dire, le seul cas que Hébreux prévoit pour la perte du salut, pour le fait de ne plus être pur, c'est, regardez ce qui est écrit, c'est le verset de 23 et surtout le verset 26. Il est dit, à propos d'être pur, il dit: Restons, vous avez bien compris que le corps lavé d'une eau pure, votre baptême, il est définitif, mes amis. Hein. Vous ne refaites pas un plouf tous les ans. Hein. Vous allez gaspiller de l'eau. Parce qu'aux yeux du ciel, vous êtes purs. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour, à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que nous voyons se rapprocher le jour du Seigneur. On a besoin des autres aussi pour nous encourager, parce que sinon, des fois, on... Là, regardez le verset 26. En effet, si, c'est le seul cas, hein. Après avoir eu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché. C'est pas un matin, oh mince, j'ai péché, je perds mon salut. Non, c'est un choix délibéré. Quand vous voyez dans la Bible, ça prend du temps, un choix délibéré. Dieu n'est pas le Dieu des émotions passagères. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand il scrute les reins, les pensées de ton cœur, ce n'est pas parce que tu as eu une pensée tordue la nuit qu'au réveil, Dieu va te... Parce que vous allez vivre dans la crainte permanente et vous vivrez comme Simon-Pierre qui a envie de refaire le plouf tout le temps. Ce n'est pas ce que dit Jésus. Il dit, mais par contre, si vous vivez délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. En gros, si tu as connu la grâce de Dieu, que tu es engagé dans le baptême et que délibérément, tu choisis le péché. C'est le seul cas où, après avoir mis Jésus sur le trône, tu l'attrapes et tu le fais descendre sur le trône et tu mets à la place toi et ton péché. Après, un long temps, je n'ai pas le temps de reprêcher sur Jacques, dont je ne connais pas, ce que j'appelle le temps de la grâce alors qu'on est dans le péché, le Saint-Esprit dit, écoute, tu veux vraiment rester sur ton trône? Eh bien, reste-y, mais j'y suis plus. Et c'est délibérément qu'on est dans le péché. Dans ce cas-là, effectivement, on est en danger. Mais pour les autres, je reviens ce vendredi soir, il y a 10 jours. Je dis, mais pourquoi alors je suis en train de demander à Dieu de me purifier? Je me dis, c'est fou ça. Je sais qu'il m'a sauvé une fois pour toutes. Et je disais, Seigneur, lave-moi. J'ai un autre côté, le pasteur en moi, qui a un peu de théologie, dit, mais Seigneur, pourquoi je te demande de me laver? Parce que je suis déjà pur. Est-ce que c'est possible de m'amener un petit peu? Ouais, mais peut-être ici, ouais. Vous voyez, le problème, c'est ça. C'est ce genre de choses. Quand vous avez ça, ça tombe forcément en quelque part et ça pose des problèmes parce que vous vivez sur la terre. C'est vrai ou pas? Vous vivez sur la terre ou pas? Si quelqu'un est déjà au ciel, qu'il me dise. Notre esprit est dans les yeux célestes, mais je pense que vos pieds sont encore sur la terre. On est d'accord? Et quand vous êtes sur la terre, que vous le voulez ou non, il y a un jour où vous marchez dans la terre. Et les disciples qui étaient à Jérusalem, ils marchaient dans la terre. Et les... Ça, ils ne m'ont vraiment pas aidé. Hein. Ils m'ont même mis un asticot dans la terre. Franchement, les frangins, je sais que vous n'avez pas fait exprès, mais vous êtes durs. Bref, c'est pas grave. Jésus a pris plus que des asticots. Hein. Là, je pense que c'est une très bonne illustration, cet asticot baladeur. Là. Je crois qu'il est mort, quand même, heureusement. Merci, Seigneur. Mais Jésus dit, Pierre, tu n'as pas compris ce que je te dis. Je ne te demande pas de te déshabiller pour refaire le plouf. Et tu relèves. Et j'ai quelque chose pour toi, Pierre. C'est que il te suffit de te laver les pieds. Et ce vendredi soir, Jésus m'a dit, il te suffit de te laver les pieds. Parce qu'avec toutes les poussières, les saletés dans lesquelles j'avais marché dans la journée, le matin au réveil, t'écoutes France Info, t'entends des coups bas des gens en politique, tu passes dans le métro, t'as de la porno une station sur deux, t'écoutes ta voisine qui est en train de raconter son histoire d'adultère, tu vas au boulot et t'as l'autre qui est jalouse, etc. Et toi, au final, tu commences à rentrer dans leur cancan à midi et t'es en train de te salir les pieds et le Saint-Esprit, il dit, bon, bref, tu te salis, quoi. C'est pas, t'es pas en train d'être délibérément dans le péché. Vous comprenez ce que je vois la différence? Tu es juste dans la marche quotidienne, ce qu'on appelle la sanctification. Le premier point, c'était le salut. Le deuxième, c'est la sanctification. Tu es en train de te salir les pieds. Et c'est pour ça que Jésus dit à Pierre, il te suffit de te laver les pieds. Ton cœur est déjà pur, tu n'as pas de risque pour ton salut. Lave-toi juste les pieds. Et ça, c'est, excusez-moi, hein, c'est tous les jours. Hein. On est d'accord? Même les célibataires. Hein. Tous les jours. Hein. Même s'il n'y a que vous, respectez-vous. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez, à force de marcher dans le péché, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude de l'hyper-propre qui va se laver deux fois, trois fois les pieds par jour. Et puis il y a celui qui est beaucoup plus cool, qui se dit, moi l'odeur ne me dérange plus. Ah, c'est pareil chez les chrétiens. Au bout d'un moment, il y en a, ils se lavent les pieds, mais alors une fois par semaine, le dimanche matin. Alors c'est le gros nettoyage. Le pasteur, il sort la petite douchette. On nettoie les pieds. Et toute la semaine, vous vous demandez pourquoi vous avez une communion misérable avec Dieu. Ben, ce n'est pas que Dieu a un problème avec votre cœur, c'est qu'il a un problème avec votre odeur. Et en fait, naturellement, quand vous avez les pieds sales, ben, honnêtement, vous voyez, ça fait déjà quelques minutes que je suis en train de marcher là-dedans et je ne me vois pas aller voir mon frère Toussaint. Vous voyez, je suis déjà gêné quand je m'approche de lui. Parce que je me dis, s'il regarde ça, il y a juste un truc qui est gênant, vous voyez. Et je préfère cacher mes pieds. Donc naturellement, je ne vais pas aller vers mes frères. Donc je vais faire sauter les réunions. Et naturellement, je ne vais pas aller souvent vers Dieu parce que je ne me sens pas bien. Donc en fait, la première personne que vous punissez lorsque vous ne vous lavez pas les pieds chaque jour, c'est vous-même. Et en fait, vous vous habituez à vivre un peu dans une certaine culpabilité latente. Une communion. Et moi, je m'étais rendu compte que ce vendredi soir, là, j'avais dû marcher dans plus de trucs que d'habitude. Le Saint-Esprit, c'était un peu plus long à connecter. Oui, j'avais une connexion Internet, mais pas un super bon débit ce soir-là. Et avant de connecter fort avec Dieu, le Saint-Esprit ne me disait pas que j'avais perdu mon salut. Il me disait, Yvan, laisse-moi te nettoyer, là. Prie parce que je te lave les pieds. Oh, vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et c'est extraordinaire parce que, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? En plus, certains ont tendance à marcher plus dans la saleté que d'autres. Hein. Moi, ma femme, c'est son malheur hein, d'avoir un mari comme moi. À chaque fois qu'elle fait un tas avec le balai, allez confesser certains hommes. À chaque fois, vous marchez dedans, non? Enfin, il y en a certains. Et ça rend fou l'autre! Et moi, je suis comme juste, je regarde toujours trop haut, je ne sais pas, mais elle me dit, mais Yvan, mais tu ne peux pas faire attention un petit peu. Le Saint-Esprit fait exactement pareil. Il dit, évite de te salir bêtement. Déjà, pour avoir les pieds propres, c'est bien de se les laver chaque jour, mais peut-être tu peux éviter certains pièges quand même. L'apôtre Paul écrit à Timothée, si quelqu'un se garde pur, de tout ce que j'ai parlé, il est comme un vase destiné à un usage noble, purifié, utile à son propriétaire et disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme et fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour, la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Ah, il y a des choses qu'on peut éviter, mes amis. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il y a des choses que tu dois mettre en place pour éviter de marcher dans le péché. Tu regardes une fois la porno. Est-ce que tu as perdu ton salut? Non. Mais tu as les pieds bien sales derrière. Tu t'énerves, tu commences à dire des paroles qui sont sales, qui sortent de ta bouche. Est-ce que tu as perdu ton salut? Ah non, tu t'es bien sali. Dans Marc, Jésus dit, c'est du dedans. C'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, à l'envie, à la méchanceté, à la tromperie, au vice, à la jalousie, au blasphème, à l'orgueil, à toutes sortes de comportements insensés tout ce qui sort, tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Le matin au soir, on entend ça. Du matin au soir, on est confronté à ça. Et le piège du diable, c'est de te culpabiliser pour que tu bloques ta relation avec Dieu. Ah, je me sens pas beau, je me sens pas propre, mon odeur est pas bonne. Ah, je suis pas sûr que je veux imposer ça au Seigneur. Je veux pas imposer ça aux frangins à l'église. Donc je vais pas venir à l'église. Je me sens pas très bien spirituellement. Donc je vais éviter de venir à l'église. Alors j'arrive à ma conclusion. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Jésus n'est pas dégoûté par tes pieds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cet asticot mort et toute cette terre dégoûtante, Jésus prend la peine, alors qu'il va mourir dans quelques instants, de venir et de nettoyer les pieds des frangins. Chaque jour, passe un temps à lire ta Bible, il est dit que la parole nous purifie. J'étais très étonné parce que pour moi, c'était le sang de Jésus qui nous purifiait. C'est pas vrai, non? Je vous dis, qu'est-ce qui purifie? C'est le sang de Jésus. À quoi ça sert la parole? Eh bien, la parole, elle purifie parce que justement, il dit, vous aussi, vous avez été déjà purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. En fait, chaque jour qu'on est enseigné par Dieu, ça nettoie. Vous lisez votre Bible, vous êtes nettoyé. Allez, le monde a inventé les dialyses et les trucs comme ça pour purifier, mais passez une demi-heure dans la présence de Dieu. Pardon si vous n'avez pas passé un quart d'heure, mais faites quelque chose. Vaut mieux se laver les dents, se brosser les dents en 30 secondes que rien du tout, non? Passez du temps, lisez votre Bible, écoutez un CD de louange. Au début, vous mettez le CD, votre communion, elle est faible, et puis vous voyez comme si vous étiez nettoyé par l'enseignement et la louange. Le sang de Jésus est là pour notre salut, mais il y a aussi la parole, la proximité des frères, l'encouragement des autres. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire à la fin, qu'est-ce que dit Jésus? Il leur dit, bon, n'hésitez pas à venir vers moi parce que je suis prêt à prendre la serviette pour vous. Mais il dit, faites de même les uns pour les autres. C'est-à-dire que quand il y a un frangin, une frangine dans l'église qui s'est salie, plutôt que dire, oh, elle pue. T'as vu ça chez elle, ça va pas. Oh, là, qu'est-ce qu'elle se prend pour quelque chose? Elle fait sa star à la louange. Et puis une telle, oh là là, caractère pénible, je demande pourquoi elle a l'accueil. Et l'autre, l'église des enfants, mais pourquoi elle fait ça? Elle ne s'est pas du tout enseignée. Et elle, tac, 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 on peut casser vite. Puis l'autre, son attitude, regardez sa façon de s'habiller. Pop, 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 pop. Ah ouais, toi, tu vois très bien tout ce qui est sale chez l'autre. Eh ben d'accord, tu l'as vu? Bravo. T'as plus qu'à prendre la serviette maintenant. Il n'a pas dit tu prends le karcher. Il a dit tu prends la serviette. Il y a quelque chose de doux dans le prendre la serviette. Et vous voyez, le karcher, l'avantage du karcher, c'est que vous tirez à 3 mètres, ça explose l'autre. Alors vous ne vous souillez pas avec le karcher. Vous nettoyez. Vous nettoyez ce qui est propre aussi d'ailleurs avec le karcher. Le karcher ne voit pas de différence entre le propre et le sale, il écrase tout lui. Mais Jésus, il y a quelque chose d'extrêmement doux et d'extrêmement fort. C'est un nettoyage minutieux de proximité. Il prend son vêtement, il le trempe et il commence à laver les pieds les uns des autres. Amen. On ferme les yeux ensemble. Oh Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a deux choses que Dieu te dit ce matin. Premièrement, es-tu entièrement pur? Le salut. Si tu mènes une vie, double vie et que tu es délibérément dans le péché ce matin, tu as un avertissement divin. Arrête ça. Je sonde les cœurs, dit l'Éternel, les pensées secrètes et les conséquences de tes agissements. Il y a un temps de la grâce qui a manqué à Monsieur N et qui a préféré son péché et finir dans le vomi. Il y a un temps de la grâce pour Judas que Judas n'a pas saisi, puis il alla se pendre, rongé par le remords. Ah, ce matin, que Dieu puisse remplacer toute idole ou passion dans laquelle tu as choisi de céder volontairement depuis déjà plusieurs temps. Y a-t-il quelqu'un qui veut se repentir ce matin ? Le deuxième appel concernera un chrétien qui aime son Seigneur, mais qui est juste dans une culpabilité latente, une gêne permanente. Il y a quelque chose qui bloque dans ta relation avec Dieu parce que tu ne te sens jamais propre. Et Dieu te dit, mais mon enfant, je t'aime, tu es purifié, il te suffit juste de te laver les pieds. Ça ne concerne pas ton salut, ça concerne ta sanctification. Et tu ne sais pas, je veux que tu sois comme une offrande de bonne odeur. Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé. Ressemble à ton père, car je suis saint. Trois fois saint, dit le Seigneur des armées. On va se lever ensemble. Si tu es concerné par un de ces appels, je te demanderai juste comme un signe devant Dieu, entre toi et Dieu, de mettre ta main sur ton cœur et dire, Seigneur, alléluia Jésus, purifie mon cœur. Seigneur, sanctifie-moi,
purifie mon cœur, lave mes péchés cachés, diffondeur.
Alléluia.
Je n'ai qu'un désir. Être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir.
Oui, je choisis. Je choisis, alléluia, d'être saint, Seigneur.
D'être saint,
je choisis, Seigneur, ce matin.
Mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis,
oh, je choisis
d'être saint. Mis à part pour toi, mon Seigneur.
Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis, quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais, quand je marche, quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi, tu es derrière moi, tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée. Savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Alléluia. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends ces jours d'immort, t'y voilà. Alléluia. Vous savez, quand tu es dans la présence de Dieu, la seule chose qui te reste à faire, c'est plier le genou devant lui. Et il y a un cœur qui dit, Seigneur, incroyable majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, et pour toi, un petit trésor, une perle de prix. Je demande à toute personne baptisée qui s'est mouillée, qui a été entièrement pure. Prenez pas ça si vous n'êtes pas entièrement pur. Hein. Prenez pas la Sainte-Seine si vous n'avez pas été lavé. Ne prenez pas le risque de finir comme Judas. Si jamais votre cœur n'est pas entièrement pur, que vous avez délibérément choisi le péché ou si vous n'êtes pas engagé avec Dieu, prenez pas la Sainte-Seine ce matin. Par contre, si jamais vous êtes engagé avec Dieu, mouillé pour lui, baptisé, purifié, nettoyé et vivant aujourd'hui, dans cet engagement du départ, une fois pour toutes, il a offert son sacrifice qui vous justifie. Votre salut est acquis une fois pour toutes. Ne redemandez pas à Dieu de vous sauver ce matin. Il n'est pas le Dieu des sentiments, il est le Dieu des décisions.
Conduire dans ta sainteté.
te
j'ai trouvé.
J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier.
Transformé, majesté,
à genoux devant ta majesté.